Voilà, alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux parce que, bon, ben, beaucoup de frères et sœurs sont partis dans leur famille. Et c'est une bonne chose que Dieu les bénisse là où ils sont. On en a qui sont en Afrique du Sud. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Et voilà, il y en a un peu partout. Ouais. Demain, c'est l'anniversaire à Priscille, mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas là. Gloire à Dieu, tout va bien, tout va bien. On a notre sœur Isabelle qui est là avec nous, on est content de la recevoir. Tout est bien, tout va bien, gloire à Dieu. Jésus-Christ est ressuscité, amen. Il est ressuscité. On va lire Jean chapitre 3, verset 12. C'est Jésus qui parle et il dit, si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyez pas, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Amen. Vous pouvez vous asseoir, Jésus nous a parlé des choses terrestres, et puis il savait qu'à l'époque, ces gens-là n'étaient pas capables d'entendre parler des choses célestes, donc il ne leur disait rien. Il a dit un petit peu après, et il révèle de plus en plus de choses. La Bible nous apprend que Dieu a placé chaque être humain, dans chaque être humain, la pensée de l'éternité. On trouve ça dans Ecclésiaste 3, 11. C'est vieux, cette révélation. Dans chaque être humain, sous la forme d'une intuition, nous savons que la mort, ben, ce n'est pas le dernier mot de l'existence. Je dis ça parce que non seulement c'est la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui, mais je dis ça aussi parce que cette semaine, j'ai été à l'enterrement d'un ami. Et voilà, ben voilà, beaucoup de ces gens étaient désespérés parce que sans foi, rien du tout. Et voilà, j'ai vu une jeune femme faire un signe de croix très, très pudiquement, très discrètement, pour pas qu'on la voie, n'est-ce pas? C'est terrible, n'est-ce pas? C'était pas d'espérance au sujet de après, qu'est-ce qui va se passer après. La croyance intuitive de l'avenir après la mort, elle est quand même plus générale que celle du néant. Pour ceux qui ont écouté ma prédication de vendredi soir sur le net, vous avez compris. Parce que les vrais incroyants, ça, c'est très rare. C'est très rare, les vrais incroyants. Parce qu'un vrai incroyant, il s'en fout. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de vie après la mort. Mais jouissons, faisons tout, n'importe quoi. Profitons de tout et tout. Et en général, non, ils ne font pas, parce que quand même, il y a une espèce de une retenue, n'est-ce pas? Une retenue. Pas simplement le respect de l'être humain, mais il y a plus que ça. On a une peur, et en fait, cette peur, je crois que c'est Dieu qui l'a mise dans nos cœurs exprès. Je posais la question, comment se fait-il que parmi ceux qui croient à l'immortalité, on voit tant de gens qui ont quand même une si grande appréhension de la mort, et comment ça se fait que parmi ceux qui croient dans l'immortalité, ils ont encore tant d'attachement au sujet des choses de la terre? Je vais répondre un petit peu à ces questions entre aujourd'hui et vendredi prochain. Je crois que la peur de la mort, c'est Dieu qui l'a placée dans l'homme. Ça nous oblige quand même à nous battre pour rester en vie ici-bas sur la terre. Cette peur de la mort, elle est nécessaire pour ceux qui ne sont pas éclairés sur les conditions de la vie future. S'il n'y avait pas de mort, je crois que beaucoup plus de gens quitteraient prématurément la vie terrestre. Prématurément, oui, prématurément, parce que Dieu a fixé un jour où nous allons quitter la terre, mais entre le jour où nous sommes venus nous incarner ici et le jour où nous serons désincarnés, eh bien, nous avons à grandir. Et il y a un but à cela. On n'est pas en train d'emmagasiner toute cette connaissance, on n'est pas en train d'emmagasiner tout ce savoir, on n'est pas en train d'emmagasiner toute cette force de caractère pour rien, pour aller dans un trou. Non, c'est parce qu'il y a un avenir. On est en train de préparer notre avenir. Nous sommes venus ici-bas pour ça. Nous sommes venus ici-bas et au fur et à mesure que nous comprenons la vie future, eh bien, notre appréhension au sujet de la mort, elle disparaît. On en arrive au point de dire, oh là là, vivement que ça arrive. Sans avoir un esprit suicidaire, moi je dis vivement que je parte. j'aime bien la vie, je suis content, tout va bien, mais vivement que je parte, parce que je me réjouis du monde futur. Ici, c'est un furoncle. Hein, pour ceux qui voyagent beaucoup dans le monde, ben, vous pouvez vous apercevoir que c'est l'horreur dans le monde. C'est affreux, la condition, comment les gens vivent. C'est abominable. Alors, on fait ce qu'on peut. Petite goutte dans l'océan, avec un peu d'humanitaire, on fait ce qu'on peut. Mais en faisant cela, même, on est découragé parce qu'on voit l'indifférence des gens. Ils s'en foutent, mais ils s'en foutent. Il faudrait les prendre, les obliger avec des charters et les emmener, mettre le nez dedans pour qu'ils se rendent compte de la misère du monde, pour qu'enfin ils se réveillent et fassent quelque chose. C'est un monstre d'égoïsme. Le monde, moi, j'aime plus le monde. Ça me dégoûte. C'est une véritable saloperie. C'est devenu une horreur. C'est affreux. Vous avez vu cet homme-là qui était poussé sous le métro, hein? Vous savez ce qu'il a déclaré, le type qui a poussé l'homme sous le métro? Il m'avait regardé bizarrement. Voilà. Frères et sœurs, en même temps que nous comprenons mieux la vie future, l'appréhension de la mort, elle disparaît, mais en même temps aussi, nous comprenons mieux notre mission sur la terre. Dieu fait les choses d'une façon équilibrée, parce que sinon, on dirait, oh là là, et puis on resterait complètement écrasé, on dirait, à quoi bon? On a un petit chant qui dit, hein, j'ai voyagé dans le monde, mais découragé en voyant toute cette misère, je me suis replié sur moi-même. Mais on ne peut pas faire ça. On a une mission sur la terre. La certitude de la vie éternelle, elle donne un cours différent à notre vie ici-bas, à nos pensées. On développe des idées différentes de celles des incroyants. Et en ce qui concerne notre travail, déjà, par exemple, nous avons un autre but. Nous ne travaillons pas seulement pour nous-mêmes, pour nourrir notre famille, pour payer des études à nos enfants. Une personne qui a la certitude de la vie éternelle, quand elle travaille, elle sait que c'est premièrement pour Dieu, parce que c'est pour elle l'occasion d'un service divin, son travail, c'est une prédication vécue, c'est un témoignage à la gloire de Dieu, un témoignage vivant. Elle montre par là comment agit un fils ou une fille de Dieu. Et c'est différent, n'est-ce pas? On agit différemment dans ce monde. Et puis le salaire de celui qui travaille et qui a la certitude de la vie éternelle, il sait que premièrement, son salaire, c'est premièrement consacré pour l'Église de Jésus-Christ, dont Jésus est la première pierre. Et nous savons qu'il faut de l'argent pour que ça puisse continuer à grandir, pour que ça puisse continuer à se fortifier. On ne peut pas, comme disait Coluche, on ne peut pas donner 100 balles si on n'a pas 100 balles. N'est-ce pas? C'est la vérité. Et donc, celui qui travaille, il travaille avec, premièrement, un but divin. La première chose, avant de payer ses factures, eh bien, il va prélever la dîme pour Dieu, pour la maison de Dieu. En dehors de ça, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut donner de l'argent à qui il veut, ça, c'est sa liberté. Mais la première chose, avant les factures, avant même les impôts, avant tout, c'est la dîme. Selon Malachie 3:10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. C'est comme ça. Donc l'homme, la femme qui a une certitude au sujet de la vie éternelle, il sait qu'il est en train de construire, il participe à la construction de la maison, apporter de la nourriture dans la maison de Dieu pour qu'il y ait de quoi nourrir ceux de la maison, mais ceux aussi de l'extérieur, pour faire des choses, pour construire, pour bâtir. Il se sent important dans son travail. Ce n'est pas simplement un travail routinier, mettre au boulot dodo. Il a une joie d'y aller parce qu'il sait pourquoi il y va. Avant d'avoir la certitude de la vie éternelle, l'homme, il ne travaille que pour la vie actuelle, que pour ses vacances, que pour... Voilà, quoi. Il ne pense pas du tout à engranger dans le monde futur. C'est là que Jésus dit, par exemple, « Là où est ton trésor, là est ton cœur. » Où est-ce qu'il y a votre trésor? Le trésor d'un enfant de Dieu, il est dans le ciel, il est en magazine pour le ciel. La personne qui n'a pas la certitude de la vie éternelle travaille en vue de son avenir terrestre et puis sans négliger son présent, parce qu'il sait très bien que son avenir dépend de la direction qu'il donne à son présent. Mais il sait aussi qu'un jour il va mourir, ça va s'arrêter, alors il prépare quelque chose pour après sa mort, c'est-à-dire quelque chose qui reste pour ses enfants ou pour la société, et c'est déjà très bien, mais avec ce qu'on gagne, ça devient de plus en plus difficile. Mais l'enfant de Dieu, lui, il est béni parce que quand il donne sa dîme, il y a une promesse, Dieu lui dit, je te rendrai ça au centuple, amen, et alors il prospère. Alors, L'homme ou la femme qui n'a pas l'assurance au sujet de la vie future, il n'a pas la certitude de retrouver ses enfants, il n'a pas la certitude de retrouver sa femme, son mari, ses amis après la mort, il n'a pas la certitude que ses œuvres vont le suivre, il n'a pas cette certitude, il croit qu'il va à la mort et puis il perd le fruit de son travail. Et puis... Par contre, celui qui a la certitude de la vie éternelle, il sait qu'il ne va jamais cesser de grandir. Il a commencé à partir du moment où il a respiré en sortant du ventre de sa mère et ça ne va jamais arrêter. Il va continuer à grandir en intelligence, il va continuer à grandir en perfection. Et ça, déjà sur cette terre, ça nous donne de la patience. On se dit, bon, je suis en pleine progression en vue de quelque chose. Ce n'est pas simplement un truc qui va s'arrêter, on ne sait pas quand. Non, ça nous donne de la patience, ça nous donne de la persévérance, ça donne du courage de supporter les difficultés, les fatigues physiques, les fatigues morales, ça donne du courage. Celui qui a la certitude de la vie éternelle en arrive à un moment donné, à un niveau, ça c'est pas tout de suite, mais c'est à force d'exercer son esprit, on en arrive au point où nos yeux spirituels s'ouvrent. Et alors là, l'homme, la femme spirituelle, l'enfant spirituel peut contempler la solidarité qui existe entre le monde des esprits et le monde matériel, le monde terrestre. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte de l'intervention des anges, de leur service. Il va entendre l'inspiration des anges. Il va s'apercevoir de leur protection. Il va sentir leur guidance. Il va s'apercevoir qu'ils sont là. Quelle gloire, mes frères et sœurs! Il reconnaît Dieu dans toutes ses voies, mais pas seulement Dieu, mais Dieu et toute son armée. Hein? Jésus-Christ est ressuscité. Il nous a ouvert la porte. Ça veut dire que nous ressusciterons aussi. Il est le premier en toute chose. Il est le premier à être ressuscité. Est-ce que vous avez déjà pensé à votre mort? L'autre jour, quand j'ai prêché là-bas à l'enterrement, j'ai dit, il y en a un là qui sera le suivant, qui sera le prochain. Peut-être ce sera moi dans la boîte. Ce sera qui? Les gens n'aiment pas quand on dit ça. Je fais exprès à chaque fois aux enterrements, je dis ça. Parce qu'on est tous confrontés à notre propre mort, mais les gens n'aiment pas penser à ça, à leur propre mort. Est-ce que vous avez déjà envisagé votre mort sous son véritable point de vue? C'est-à-dire par la pensée, par une pensée qui est contrôlée par les Saintes Écritures. Pas penser n'importe quoi. Parce que vous pouvez penser à la mort à la façon Bernard Werber. C'est extraordinaire, c'est formidable. Déjà, au moins, lui, il a pensé. C'est faux, mais il a pensé. Beaucoup de chrétiens ne pensent pas. Il faut penser, il faut réfléchir. Votre corps, c'est une création. Votre corps, c'est une création. Elle est faite, savez-vous que votre corps, c'est une création qui est faite des mêmes matériaux que la Bible que vous tenez dans votre main, là. Que la table sur laquelle vous allez manger. Votre corps, il est fait des mêmes ingrédients que la bouffe que vous allez bouffer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a à manger à midi? Une côte de porc, pardon les juifs, pardon les arabes. Dieu nous l'a donné à nous, parce que voilà, c'est bien, merci Seigneur. Hein, on est de la même, on a été fabriqués avec les mêmes éléments que le soleil ou la cuvette des WC. Voilà ce qu'on est, notre corps. Hein, faut pas se leurrer. Et c'est parce que Dieu a soufflé un esprit dans votre corps que votre corps est devenu l'être vivant qu'il est. On trouve ça dans Genèse 2, 7. Je le dis, jusqu'à ce que ça rentre. Ce qui est vivant, c'est votre esprit. Ce qui est vivant, c'est votre esprit. Votre esprit mélangé à votre corps, ça donne ce qu'on appelle l'âme. Votre corps, il est mortel, le mien aussi. Hein? Votre âme, elle est mortelle, la mienne aussi. Il n'y a que l'esprit qui est éternel. Dieu déclare, l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Voilà, donc on est tous au clair, on est tous des condamnés à mort en puissance. Mais grâce à Dieu, il est venu pour nous racheter, pour payer le prix afin que nous n'ayons pas à mourir. Mais l'âme qui pêche, qui continue à pécher, qui ne veut pas de Dieu, elle mourra, elle sera détruite. C'est-à-dire tout ce que vous avez acquis, toute votre connaissance, ça c'est terminé. Terrible. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu déclare, le corps retourne à la poussière d'où il a été tiré. Ça, on a la preuve. Et il dit, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit, de toute façon, il retourne à Dieu. Et il en fait après ce qu'il veut de cet esprit-là. Tout ce qui est créé est mortel. Votre âme, elle était créée. Votre corps, il était créé. Mais gloire à Dieu, Jésus est le sauveur de nos âmes. Il les a rachetées à un grand prix. Il a donné sa vie à la place de la nôtre. Votre âme, si vous recevez Jésus, si vous recevez son esprit en vous, votre âme sera vivifiée, elle recevra le don de l'éternité. Moi, ça me troublait toujours cette histoire. Jean chapitre 6, verset 47, « Celui qui croit en moi a la vie. » Et Jean dit ailleurs que ceux qui reçoivent Jésus, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Votre âme, elle est créée, votre être est créé. Et ce n'est que lorsque votre être croit en Jésus, que votre âme croit en Jésus, que votre âme devient sauvée, que votre âme devient enfant de Dieu, que votre âme est adoptée dans la famille de Dieu. Mais votre esprit, de toute façon, il retourne à Dieu qui l'a donné. C'est la Bible qui le dit, Ecclésias 12, 9. C'est Dieu qui distribue les esprits, c'est Dieu qui donne les esprits. Je vais vous donner deux exemples dramatiques. Dans le corps de Caïn, Dieu a placé un esprit mauvais, dans un but. La Bible nous dit que Caïn était le fils du malin, 1 Jean 3, 12. Il y en a qui ne veulent pas. Eh bien, enlevez ce verset de votre Bible alors. Judas de même, Dieu donna dans le corps de Judas un mauvais esprit. La Bible nous apprend que Judas était un démon. Jean 3, 12. Alors, vous allez me dire, mais où est le libre arbitre alors là-dedans? Et je cherche et je trouve. Et la révélation augmente. Et voilà ce que le Seigneur m'a montré encore. Vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Où est le libre arbitre? L'âme choisit, mais pas l'esprit. L'esprit, il est ce qu'il est. L'esprit, le vôtre, le mien, a déjà choisi dans le passé éternel. Quand il y a eu la révolte dans le ciel, il y a des esprits qui se sont révoltés contre Dieu. C'est là qu'ils ont choisi. Il y en a qui sont partis du mauvais côté. Ils ont choisi ça à ce moment-là. Votre âme, mon âme, cette création, la mienne, mon âme, elle n'a que 60 ans. C'est une création récente. Eh bien, mon âme, elle choisit de faire le bien ou le mal. Mais personne n'est sauvé parce qu'il fait le bien et personne n'est perdu parce qu'il fait le mal. Nous sommes sauvés, notre âme est sauvée par élection, par le choix de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, car Dieu a compassion de qui il veut. Romains 9, 15 à 16, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est comme ça et ne dites pas que ce n'est pas juste. Vous n'en savez rien. On ne sait pas. On n'a pas toute la connaissance, on n'a pas les tenants et les aboutissants de toute cette histoire. Mais si Dieu dit ça, je crois ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi je dis, je pense à ma mort sous le contrôle des Écritures et je peux maintenant envisager comment sera ma vie future. Parce que j'ai des données dans les Écritures. Ce n'est pas un vagabondage. Et Jésus est venu pour chercher les siens. Il appelle par leur nom ceux qui lui appartiennent. Jean 10, 3, ça veut dire qu'il y en a qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est eux qui iront en enfer. Et qui sont ceux qui le suivent? La Bible nous le dit, ceux qui le suivent sont ceux qui connaissent sa voix. Jean 10, 4. Beaucoup de gens disent, ah Jésus, c'est extraordinaire ce que Jésus dit. Quand on lit la Bible, c'est merveilleux, c'est formidable. Ça, c'est déjà une chose. Il y en a qui disent, la religion, oui, mais alors on parle de deux choses. Là. Il y a la religion, c'est une chose, et puis il y a Jésus, c'est autre chose. Et puis il y a ceux qui se font une idée de Jésus par rapport à la religion, c'est encore une autre chose. Puis il y a ceux qui connaissent rien de la Bible et qui se permettent d'avoir un avis, mais c'est grave parce qu'il est question de l'éternité. Ils ne s'enseignent pas. C'est comme quelqu'un qui partirait sur le Mont Blanc, sans guide, sans corde, sans rien du tout, avec ses tongs. C'est pourquoi la Bible dit l'incroyant est un insensé. Alors ne vous troublez pas, Dieu sait très bien ce qu'il fait, et les esprits qui sont des bons esprits retourneront dans la présence de Dieu. Les âmes qui ont reçu Jésus-Christ ici-bas iront dans le sein d'Abraham en attendant la résurrection, et tout à la fin, Dieu rachètera nos corps. Romains 8, 23, c'est pas encore fait. Voilà pourquoi le diable a encore certains droits sur nos corps et il peut même rendre malades des chrétiens. Hein? Parce que nos corps n'ont pas encore été rachetés. Ça sera fait à la toute fin, Romains 8, 23. La rédemption, le rachat de notre corps. Ça fait plaisir de savoir ça. Hein? S'il n'y avait pas ça, on pourrait dire, mais alors on va passer l'éternité, moi encore j'aurai l'arthrite toute l'éternité. Et puis Simone, elle va boiter toute l'éternité. Et la sœur Michel aussi. Non, 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 non. Notre corps va être racheté. Je me rappelle de ma mère, un jour, elle nous a rendu un témoignage, on l'a filmé, elle dit, elle regarde Mélodie, elle dit, mais moi, je n'ai pas peur de mourir, et quand je vais mourir, je serai toute jeune, plus belle que Mélodie. Vous ne me reconnaîtrez plus. C'est une promesse. Jésus est ressuscité, sinon, à quoi ça sert-il qu'on se fasse baptiser pour les morts? 1 Corinthiens 15-29. Si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien de se faire baptiser pour les morts. Et toutes ces choses que nous faisons depuis des années, c'est pipeau, ça sert à rien. Mais comme Jésus-Christ est ressuscité, ça sert à quelque chose. Amen. Ah. Jésus-Christ est ressuscité. Sinon, pourquoi irions-nous dans les pays où la politique est instable pour évangéliser au risque de perdre notre vie? 1 Corinthiens 15, 3, 31. Ah, ça servirait à rien si Christ n'est pas ressuscité. Pourquoi aller faire des bêtises pareilles? Autant rester chez soi. Puis les laisser dans leur truc. Jésus-Christ est ressuscité. Sinon, pourquoi est-ce que nous aurions à renoncer à tout pour être comme les premiers disciples de Jérusalem? On serait les pires des crétins. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux les hommes, la Bible nous dit, et nous sommes encore dans nos péchés, on s'illusionne. 1 Corinthiens 15-19. Si Christ n'est pas ressuscité... Mais il est ressuscité, ce qui fait que nous avons pu naître de nouveau et que maintenant nous sommes en progression. Est-ce que vous êtes en progression? Ou est-ce que vous êtes comme vous étiez encore l'année passée? Votre caractère, est-ce qu'il a progressé? Amen. Le frère Igor dit oui. On progresse. Et il y en a qui progressent à pas, vous savez le jeu là, à pas de saucisse, à pas de souris. Et puis il y en a qui à pas de géant. Vous avez des jeunes qui vont dépasser les vieux, les premiers seront les derniers. Alors, ça dépend de quoi? Du libre arbitre de votre âme, pas de votre esprit. Le libre arbitre n'existe pas en réalité. C'est juste un jeu avec votre âme. C'est le mode d'emploi. Tu feras pas ci, tu feras pas ça. Mais en fin de compte, c'est quand même Dieu qui décide. Jésus, s'il n'est pas ressuscité, on est vraiment les plus malheureux, on est les plus bêtes du monde. Mais les plus bêtes de bêtes de bêtes du monde. Et les gens auraient bien raison de se moquer des chrétiens si Christ n'est pas ressuscité. Mais il est ressuscité. Et il en fait la preuve. Si les morts ne ressuscitent pas, alors Paul il disait, eh ben, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mangeons, buvons et demain nous mourrons. En langage actuel, ça veut dire, on s'en fout plein la gueule, on se bourre la tronche, on s'en fout. C'est ça que ça veut dire, si Christ n'est pas ressuscité. Mais à quoi ça sert d'avoir des règles, si Christ n'est pas ressuscité? Après, vous vous étonnez que le monde va comme il va. C'est une bande d'incroyants. L'incroyance est la pire des choses. C'est ce qui motive l'égoïsme. C'est comme ça. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ est ressuscité. Et nous avons la notion exacte de ce qu'est la vie future. Dieu a soulevé un coin du ciel pour nous, afin que nous puissions voir ce que nous saurons et ce que nous y ferons. Avant d'être suffisamment avancé, on n'aurait pas pu comprendre ces choses. Ça nous aurait passé largement au-dessus. Et puis, la Bible et Enoch, qui est un prophète nommé dans la Bible, Enoch, un prophète pas seulement nommé dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, il est le 7e depuis Adam, mais il est nommé dans l'avant-dernier livre de la Bible, Jude, et une de ses prophéties est notée là. Elle était mise elle était placée sous le sceau du ridicule pendant des siècles par les théologiens chrétiens, en disant, oui, c'est quelqu'un qui a écrit et il a signé Enoch, mais c'est un bouquin qui a été écrit longtemps après Jésus-Christ. Ce n'est pas possible que cet homme ait pu prophétiser des choses aussi exactes au sujet de Jésus-Christ. Ah ah ! Mais Dieu réservait pour la fin des temps, comme il l'avait dit dans le livre d'Enoch, que ce livre-là serait pour la dernière génération, et il nous est parvenu à nous qui sommes de la dernière génération, dans les années 40, le livre d'Enoch a été retrouvé, et dans le livre d'Enoch qui a été retrouvé dans les manuscrits de la mer morte, il y a la prophétie que Jude a inscrite dans nos Bibles. Le livre d'Enoch est donc authentique, mes frères et sœurs, et ceux qui ne le lisent pas commettent quelque chose de grave, appelé indifférence, stupidité. La Bible et Enoch nous présentent la vie future comme une vérité absolue, absolue, dont les principes ne contredisent absolument pas la logique, ni les données positives de la science. Le christianisme dit des crétineries au sujet de la science. Le christianisme a longtemps retardé les évolutions scientifiques. Mais gloire à Dieu pour ceux qui pensent à l'éternité, à leur vie ici-bas et à l'éternité, en ayant pour contrôle les Saintes Écritures vraiment, on n'est pas en désaccord avec la science. Et on dit, merci Seigneur d'éclairer des hommes intelligents, des femmes intelligentes pour leur montrer des choses aussi extraordinaires concernant les choses que tu as créées. On n'est pas là à dire... Pensez, vous imaginez encore? Là, par exemple, moi, j'ai subi une opération il y a un peu plus d'un an. On a ôté mon cœur de ma poitrine. On l'a posé sur une table pendant une heure et demie pendant qu'ils me trifouillaient l'aorte. Et ils me l'ont remplacé en me mettant une aorte en téflon. Et mon cœur s'est arrêté de battre. Donc pendant une heure et demie, je marchais avec une pompe et tout. Et ensuite, ils ont replacé le cœur, ils ont recousu tout ça, ils ont refermé. Et maintenant, je suis là, gloire à Dieu. Et merci Seigneur pour l'intelligence de ces scientifiques, de ces hommes, de ces femmes douées d'intelligence. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être intelligent. Heureusement, il y a beaucoup les sages ne sont pas beaucoup parmi nous. Mais mes frères et sœurs, il y a quelques siècles en arrière, pas très loin, les églises condamnaient les médecins en disant c'est interdit d'ouvrir le corps humain parce que le corps humain est le temple du Saint-Esprit, il ne faut pas les farfouiller dans le temple du Saint-Esprit, vous n'avez pas le droit. Et ainsi, on a empêché les progrès de la médecine pendant des siècles. Crétinisme aigu religieux. Nous ne sommes pas cette sorte de chrétien. Si ça c'est être chrétien, je ne suis pas chrétien. Je me sens très... Il n'y a rien de plus intelligent que le message de la Bible et d'Enoch aussi. La vie éternelle n'est plus pour nous une vague croyance mêlée de doutes. Elle est une certitude, ça n'est plus une probabilité, c'est une certitude absolue, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est le premier à être ressuscité des morts pour être le premier en tout. Ah, mais j'entends qu'ils vont me dire, mais Michel, c'est pas vrai que Jésus-Christ est le premier né d'entre les morts pour être le premier en tout, parce que Lazare, ben il est ressuscité quand même, que je sache, avant Jésus. Et puis, la fille, le fils de la fille enfin, je ne sais plus, Naïn, là. Aussi, il est ressuscité avant que Jésus ressuscite, donc Jésus n'est pas le premier. Vous dites n'importe quoi parce que vous manquez de connaissances. Si la Bible dit que Jésus-Christ est le premier qui est ressuscité d'entre les morts, c'est que c'est vrai. Vous me dites, alors il y a une contradiction dans la Bible, puisque Lazare est ressuscité avant. Non, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. On ne parle pas de la même résurrection. Lazare est ressuscité, c'est vrai, avant Jésus. Le fils de la veuve de Naïn aussi, c'est vrai. Ils sont bel et bien revenus de la mort, mais ils y sont retournés. Pas Jésus. Amen. Jésus n'est pas retourné dans la mort. Il est ressuscité d'une façon unique. Parce qu'une fois ressuscité, il n'est plus jamais mort. Il est vivant encore aujourd'hui. Il est monté au ciel avec son corps et il se prouve encore aujourd'hui en guérissant les malades, en faisant des choses extraordinaires que j'ai vues, que vous pouvez venir voir, qui sont réelles. Mon âme a été sauvée par lui, changée. Mon âme a été sauvée de la mort. Mon âme n'est pas une espèce d'étincelle ou une flamèche ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas non plus une monade ou une substance bizarre, éthérique ou je ne sais pas quoi. Mon âme, c'est une création qui date du 5 février 1950. Elle est née morte. Elle est née morte à cause du péché d'Adam et Ève. Et puis elle a repris vie, c'est-à-dire elle a été attachée à Dieu, réunie à Dieu. Le 1er juin 68, à 21h45, quand Raphaël, le gitan, est venu prêcher à Lausanne, là, j'ai reconnu la voix du bon berger au travers de sa voix. Lui aussi, il braillait. Maintenant, depuis, je suis un être vivant autant que Adam était vivant avant la chute, et vous qui êtes nés de nouveau, la même chose. Nous sommes des êtres vivants comme Adam et Ève étaient vivants avant la chute. Dieu ne voit plus vos péchés. Quand vous venez lui demander pardon pour vos péchés, il fait « Ah bon ?» Il n'est pas au courant de vos péchés. Il ne vous voit qu'au travers purificateur du sang de Jésus-Christ. Simplement, ce qu'il veut, c'est que vous lui confessiez vos péchés, pas que vous demandiez pardon. Il vous a déjà pardonné. Amen. C'est fait. Mon âme, l'être vivant que je suis, maintenant est à l'écoute de mon esprit qui est éternel et qui voit Dieu. Jésus avait dit, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment est-ce que vous allez croire quand je vous parlerai des choses célestes? Et je sais qu'il y en a, pas ici peut-être dans notre chapelle, parce que tout le monde me connaît, et puis vous connaissez ces messages, et vous y croyez, vous y adhérez, et peut-être d'autres personnes ont de la peine à croire ces choses-là, quand je parle au sujet de ces choses célestes. Mais le temps est venu, mes frères et sœurs, pour Jésus de nous parler, de parler à son peuple au sujet des choses célestes, parce que ça vient, bientôt il va revenir, et bientôt nous allons quitter cette terre, et bientôt nous allons rentrer dans le monde surnaturel, spirituel, des nouveaux cieux. Dans ces nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre, mais il n'y aura pas qu'une nouvelle terre, il y aura des tas d'autres mondes. Et sur cette nouvelle terre-là, il y aura la nouvelle Jérusalem. C'est l'heure pour lui de nous parler de notre vie future, des nations futures, des villes futures que nous aurons à gérer, à diriger, à gouverner. La Bible dit ça. C'est glorieux, ça me réjouit, je me réjouis. J'espère que moi je serai dans les médias. Et je travaille pour ça. Nous aurons des corps glorieux. Nous nous déplacerons comme les anges d'Ézéchiel chapitre 1. On aura des moyens de transport, des roues. Allez dans Ézéchiel 1, vous allez voir. Pour les longues distances, on se déplacera comme ça. Maintenant, pour ce qui est des distances plus courtes, on se déplacera simplement comme Philippe dans Actes 8, 39. N'aura pas besoin de prendre... c'est un peu comme ici, si vous voulez. Pour aller acheter le pain, Dominique, il ne prend pas la voiture. Et pour aller à Verneuil, il est bien obligé. Donc, dans le monde spirituel, il y aura aussi des moyens de transport, toutes sortes de choses. La Bible, elle soulève le voile pour qu'on comprenne, pour qu'on voit, pour qu'on réfléchisse et qu'on se réjouisse à l'avance. Amen. Nous passerons à travers les murs, comme Jésus a fait. Mais on mangera aussi, comme Jésus a fait, avec son corps glorieux. On mangera. On pourra aussi lire dans la pensée des autres. Et ça les travaille, les gens, ça, lire dans la pensée des autres. Pour les jeunes qui ont été voir Twilight numéro 2, là, il suffit qu'ils prennent la main et puis hop, ils voient dans la pensée des autres. Ça, c'est un rêve qui a toujours existé. Mais ça sera une réalité. Ça sera une réalité. Nous mangerons, nous travaillerons. Il y aura du vin. Tant pis pour les pentecôtistes qui disent que le vin, c'est du diable. Il y aura du bon vin. Et nous ne serons jamais fatigués. Il n'y aura pas de nuit. Vous savez pourquoi il y a des nuits aujourd'hui? Pour que notre corps et notre âme puissent dormir, c'est-à-dire mis de côté pendant un moment. Et notre esprit, qui est un être ailé, il va s'exprimer devant Dieu au sujet de nos journées. Voilà ce que la Bible nous dit. Ecclésiaste 10, 20, vous ne le savez pas? C'est pourquoi vous devez faire attention à ce que vous dites. Parce que l'esprit, l'être ailé, il va en rendre compte à Dieu tous les jours. Enfin non, c'est la nuit quand vous dormez. Beaucoup de gens l'ignorent, ils ne savent pas pourquoi. Dieu est en train, mes frères et sœurs, de rétablir toutes choses et c'est glorieux. C'est le temps du rétablissement de toutes choses selon Actes 3, 21. Jésus-Christ est ressuscité, le ciel l'a reçu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et c'est commencé, ce rétablissement, il est commencé. Alors, vous vivez dans quel temps?
Nous, on vit dans la 5e République.
C'est ça, non? Oui. Mais non, on ne vit pas dans la 5e République. On vit dans le temps du rétablissement de toutes choses. L'histoire de la 5e République, mais mon Dieu, mais bénis-les, c'est magnifique. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça aille le mieux possible, mais de toute façon, c'est foutu d'avant. Mais bon, que Dieu les bénisse. On prie pour nos gouvernements, on prie pour Sarkozy, on prie pour tout le monde. C'est bien, mais c'est voilà ce que je vous dis. C'est leur monde, c'est pas notre monde. Notre monde, il est futur et on y va. On est en train de se préparer le caractère pour ça. Dans quel temps vous vivez? Quand vous mourrez, vous allez faire quoi? Je vais vous dire, moi, la première chose que vous allez faire. C'est écrit dans 1 Pierre 3,19, la première chose que vous allez faire. Vous savez que Jésus, il a dit un jour, il a dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez. Jean 14, 12. Eh bien, nous faisons tout ce qu'il a fait. Nous témoignons, nous prêchons, nous guérissons les malades et toutes ces choses. Mais quand nous serons morts, comme nous continuons à vivre, la première chose que nous allons faire ce que lui, il a fait quand il est mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prêcher aux esprits en prison. Et il a sorti de là des captifs. Eh bien, voilà ce qu'on fera. Amen. Ça me donne une grande joie. Ça, c'est magnifique de penser que ceux qui nous ont précédés, ton mari, ma mère, tous ceux qui nous ont précédés, la première chose qu'ils ont fait, il y en a qui ont été surpris parce qu'ils ne connaissaient pas la doctrine. Guy, il a dû être surpris. Mais il y a un ange qui est venu lui dire, maintenant, on va dans le séjour des morts parce que tu dois aller prêcher. Ah bon? Mais oui, tu n'as pas lu ça dans la Bible? Ouais, mais bon. Nous, on est au courant. Amen. Et alors là, j'imagine ma mère arrivant dans le séjour des morts. Alors elle a dû prêcher. Waouh! Vous vous rappelez comme elle était, ma mère, hein? Eh bien, voilà tout ce que Jésus a fait, nous ferons des choses, la Bible dit, encore plus grandes. Mais en réalité, le texte, ce n'est pas plus grand, c'est plus nombreux. Nous ferons des choses plus nombreuses. Quand vous prenez T.L. Osborne, par exemple, il a fait plus de miracles que Jésus. Il a fait un plus grand nombre. Ça ne veut pas dire plus grand. Vous pouvez faire quoi de plus grand que de ressusciter un mort? Vous pouvez faire quoi de plus grand que de marcher sur l'eau? Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus nombreux. Mes frères et sœurs, voilà la joie de Pâques. Voilà pourquoi on se réjouit parce que Jésus-Christ est ressuscité. On ne se réjouit pas parce que Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité, mais on ne sait pas à quoi ça sert. La résurrection de Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, nous ressusciterons nous aussi. Il nous a ouvert la porte, non pas pour nous ennuyer éternellement dans un paradis de parfaite inutilité. Mais pour créer des nouveaux mondes avec notre époux, pour les diriger, pour les gérer, pour entreprendre des aventures exaltantes avec les anges. Amen. Sur ces nouveaux mondes, il n'y aura plus de mauvais esprits. Sur ces nouveaux mondes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus tout ça. Il faut que vous vous exerciez à vivre dans un monde où il n'y a plus de mauvais esprits. La communauté, ça doit être ça. Un monde où il n'y a plus de mauvais esprits. Avec ma femme, la chose qu'on fait tous les matins, on lit les mauvais esprits, on chasse les mauvais esprits, les esprits mesquins, les esprits bêtes, les esprits crétins, les esprits... Tout ça, on les lit au nom de Jésus, on les chasse, on fait le ménage. Pour que au moins notre territoire soit uniquement occupé par des anges de Dieu, des esprits saints, des esprits bons. Vous aussi, faites ça. Ne nous laissez pas faire ça tout seul. Luttez contre les mauvais esprits, chassez-les. Chassez-les afin qu'il n'y en ait plus. Vous les chassez par un portail, ils vont essayer de rentrer par l'autre. Boum, vous les bousillez, vous les chassez au nom de Jésus, vous leur résistez, vous ne vous soumettez pas à ce qu'ils essayent de vous influencer à faire ou à dire. Amen. Ça doit être l'Église de Jésus-Christ, ça doit être les prémices du paradis, mais c'est nous qui devons le faire par l'autorité que nous avons au nom de Jésus-Christ. Et ça sera magnifique. En plus, la musique sera bonne. Alors, Simone, elle se dit, on entendra la calasse du matin au soir. Oui, elle entendra la calasse du matin au soir. Moi, j'entendrai Sylvie Vartan. Chacun ses goûts. Mais tout le monde sera content, mes frères et sœurs. Je plaisante, là. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Non, mais je suis obligé de le préciser, parce qu'il y a des gens qui vont croire que je dis que c'est écrit dans la Bible qu'on va entendre Sylvie Vartan. Ici-bas, sur cette terre, nous sommes dans l'endroit le plus sombre, le plus nul, le plus lourd de l'univers. Mais nous sommes là, nous savons pourquoi, on est en préparation. Notre caractère se fortifie, se modifie, notre intelligence se développe, notre connaissance est l'enfle, mais notre amour englobe le tout. Pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs. Faites donc tous vos efforts pour rajouter à votre foi la force morale. Ajoutez à la force morale la connaissance. Ajoutez à la connaissance la maîtrise de soi. Ajoutez à la maîtrise de soi la persévérance. Ajoutez à la persévérance la piété. Ajoutez à la piété l'affection fraternelle. Ajoutez à l'affection fraternelle l'amour. Oh, mais Michel, on ne peut pas ajouter. Si, c'est à vous d'ajouter. C'est à vous, 1 Pierre 1, 5, 6, ajoutez à votre foi. Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour que nous ressuscitions comme des ectoplasmes mous et privés de personnalité. Tout ce que nous développons ici-bas, ça nous suivra, ça sera glorifié, exponentiellement amplifié, magnifié, glorifié pour l'éternité. Alors mettez-vous au travail si vous n'avez pas envie d'être un ectoplasme qui traîne sur la moquette du paradis. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que les musiciens viennent et on va chanter. Alléluia.
Amen.
Ça vous a plu?
Bon, sinon je...